Bonjour, Joëlle Bollot, je suis professeure en lycée professionnel et formatrice. Votre exposé appelle deux questions. Enfin, d'abord, bon, bravo pour ce dispositif qui, effectivement, semble prometteur pour dans d'autres académies, peut-être. Donc, ça fait trois questions pour moi. Est-ce que il y a une communication de ce dispositif dans d'autres académies? Parce qu'on voit bien l'intérêt d'étendre le dispositif à l'intérieur de l'académie autour de Lyon. Mais est-ce qu'il y a une communication dans d'autres académies qui pourraient en bénéficier? Première question. Deuxième question, est-ce que de la même manière que les enseignants ont été préparés, formés, ont travaillé en amont, est-ce que les tuteurs dans les entreprises qui accueillent ces jeunes bénéficient d'une formation, d'un travail collaboratif avec les enseignants? Comment ça se passe de ce côté-là? Et la troisième question, je l'ai oubliée pour le moment, merci.
Alors, en attendant votre troisième question, je vous disais tout à l'heure que le projet d'étendre le lycée à Nouvelle Chance sur les deux autres départements de l'académie, c'est-à-dire l'Ain et la Loire, est en train de prendre forme, hein, puisque j'ai rencontré le secrétaire général la semaine dernière. Le secrétaire général m'a donné son feu vert pour que nous puissions mettre en place un établissement dans l'Ain et un établissement dans la Loire ce dispositif sous la forme que je vous ai indiquée. Donc nous avons des assurances et un feu vert important en la matière. Et donc je commencerai ma mission dès le mois de juin pour aller dans la Loire et dans l'Ain. Et alors, donc simplement pour vous dire... On a commencé à amorcer là-dessus. Alors, sur les autres académies, je vais passer par le rang du ministère. Le ministère est venu nous voir et il y a un clip vidéo qui va être bientôt sur le site du ministère autour du lycée de Nouvelle Chance. Et la volonté du ministère, c'était que d'autres académies puissent s'intéresser à ce dispositif et voir, en fonction de leur réalité, comment ce dispositif pourrait être mis en place dans d'autres académies. Le ministère m'a appelé longuement au mois de décembre dernier pour faire un rapport sur le lycée à Nouvelle Chance et l'a inscrit dans une réflexion plus globale que le ministère menait autour de ce qu'on appelle les micro-lycées. Vous savez que dans d'autres académies, il y a des micro-lycées que j'avais rencontrés lorsque j'avais préparé ce dossier pour le lycée à Nouvelle Chance en 2001-2002. Et donc autour des micro-lycées, le ministère était en train de faire une note pour tous les recteurs de France au début de cette année. Ce qui a plu au ministère, entre autres, hein, c'est que nous étions sur des lycées professionnels, que nous travaillions sur les branches professionnelles, dans des lycées professionnels, qui étaient un peu innovants par rapport aux micro-lycées qui font un travail formidable, qui sont plus sur de la formation d'enseignement général, repasser des bacs, etc., etc. Ils font un travail remarquable. Donc, le ministère est intéressé, en tout cas au niveau de la volonté du projet, de voir comment ça pourrait se développer dans le cadre d'autres académies. Et pour cette raison, il nous a envoyé une équipe pour filmer pendant une journée le lycée de la Nouvelle Chance, un clip vidéo qui dure 5 minutes et qui devrait être sur le site du ministère très prochainement. Donc oui, il semblerait qu'il y ait une volonté politique que ce dispositif lycée de la Nouvelle Chance, sur des orientations filières professionnelles, puisse se développer dans d'autres académies. Concernant la formation des enseignants, cette formation des enseignants, bien entendu, a été très forte dès le départ.
La question porte sur la formation des tuteurs, monsieur.
Oui, alors, sur la formation des tuteurs, il n'y a pas de formation en tant que telle des tuteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place à la rentrée prochaine. La formation des tuteurs se fait simplement par regroupement trimestriel des tuteurs au lycée Magenta avec les profs, avec les professeurs et avec des échanges. Voilà. Mais il n'y a pas de formation en tant que telle des tuteurs.
La troisième question, c'est aussi une question technique. Combien de temps dure la formation? Parce que le bac pro, 3 ans aujourd'hui, c'est 3 ans. Et ces jeunes sont accueillis. Enfin, ce dispositif leur permet d'avoir le diplôme en combien de temps?
Jusqu'à présent, notre formation était en 3 ans. Puisque nous accueillions les jeunes en BEP au départ. Mais ils faisaient un BEP qu'on appelait turbo. Ils faisaient le BEP en 1 an au lieu de 2 ans. Après, ils enclenchaient 2 ans bac pro. Bon, avec la réforme du bac pro, aujourd'hui, on est sur un bac pro, nous, de 2 ans, et non pas de 3 ans. Puisque les jeunes que nous repérons, nous, des missions locales, alors je ne l'ai pas dit parce que ça aurait été fastidieux pour l'exposer, mais les jeunes que nous repérons sont quand même des jeunes qui ont minimum une première année de BEP. Hein, et donc, ils satisfont à des tests de niveau 5 qui nous permettent, si vous voulez, de choisir, entre guillemets, des jeunes de manière à ne pas les mener à un échec. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre dans le process des 2 ans de bac pro lycée de nouvelle chance des jeunes qui ne nous donnent pas le minimum, je dis bien le minimum, de garantie pour pouvoir se projeter sur 2 ans quant à une réussite par rapport au bac pro. Donc c'est pas une sélection, si vous voulez, en tant que telle. C'est simplement des prérequis. Ça dure une matinée. C'est des tests en français, en maths, utilisation de logiciels simples, une petite rédaction de 20 lignes autour d'un thème, entretien de motivation après qui dure une demi-heure. Donc c'est la croisée de ces tests et de cet entretien de motivation qui nous permet de dire cette personne-là, on peut prendre le risque avec elle de s'engager sur le process. Les personnes qui ne sont pas retenues, nous faisons le retour inverse de la préconisation des missions locales. C'est-à-dire que nous faisons une préconisation pour les missions locales en disant que si nous n'avons pas retenu cette jeune ou ce jeune, c'est parce qu'au niveau enseignement général, il faut qu'il ait une remise à niveau beaucoup plus importante. Ou au niveau de son choix professionnel, il ne nous paraît pas évident qu'il a vraiment choisi cette orientation professionnelle. Donc ce jeune mérite une autre année d'accompagnement, soit de remise à niveau, soit de confirmation de projet professionnel, et nous sommes prêts à réenvisager sa candidature l'année d'après. Il n'y a jamais d'éviction sèche des jeunes.
Bonjour, je suis Virginie Vachon, conseillère principale d'éducation et coordonnatrice du réseau raccrochage Vallée du Gier, un projet qui a été initié cette année, financé par la région Rhône-Alpes. Alors, ma question concernait le recrutement. Vous y avez déjà répondu partiellement. Ceci dit, j'aimerais connaître la proportion de jeunes qui ne sont pas intégrés suite au test et à l'entretien. Et puis, la deuxième question est, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne davantage que dans un établissement classique, entre guillemets,
alors,
selon vous?
Nous sommes dans un établissement classique. Le lycée de la Nouvelle Chance n'est pas un lycée parallèle au lycée Magenta. Il est une structure à l'intérieur du lycée Magenta. Le chef d'établissement est le patron du lycée de la Nouvelle Chance, comme il est le patron de son lycée en termes de la formation initiale. Donc nous sommes bien dans un lycée lambda, formation initiale, qui accueille ce dispositif lycée de la Nouvelle Chance. Voilà. L'objectif étant aussi que ce qui se passe au lycée de la Nouvelle Chance, au niveau des bonnes pratiques, puisse se transférer dans les pratiques pédagogiques du lycée formation initiale. C'est ainsi que, par exemple, avec le e-learning fait consensus au lycée Magenta aujourd'hui. C'est-à-dire que le e-learning a été élaboré au départ dans le cadre du lycée de la Nouvelle Chance. Progressivement, la volonté, c'était de ne pas garder ça jalousement pour nous. C'était de voir comment on pouvait partager le e-learning avec toutes les équipes pédagogiques du lycée Magenta, et notamment des équipes formation initiale. Au jour d'aujourd'hui, la moitié des équipes du lycée de la formation initiale utilisent le e-learning. Donc, ce que je vous disais lorsque j'étais conseiller en formation continue, cette expérience, pour qu'elle puisse transpirer dans la formation initiale, on joue la même chose. Lorsqu'on est dans un établissement, par rapport à un pôle, on va dire, innovant, voir comment lui aussi, il peut transférer ses bonnes pratiques dans les structures de la formation initiale. Donc je pense que ça réussit, parce qu'il y a une volonté de tous les acteurs que ça réussisse, du proviseur, de la vie scolaire, de l'assistante sociale, de l'infirmière, des équipes pédagogiques. Mais que cette volonté, que cette adhésion, elle est alimentée tous les jours, chaque semaine, par des éléments nouveaux qui font que on évalue qu'à un moment donné, on plafonne. Parce que dans toute expérimentation, à un moment donné, on est un peu sous la vitesse acquise. Et qu'à un moment donné, il faut faire des piqûres de rappel. Il faut relancer la dynamique. Hein ? Voilà. Donc je pense qu'il y a une espèce de dynamique naturelle qui fait que on se remet en question, j'allais dire, naturellement chaque année, parce qu'on a des publics différents, qui nous posent des questions différentes et qui nous amènent à revisiter nos pratiques pédagogiques et notre accompagnement. Et du coup, ça fait tache d'huile. Voilà. Alors, sur votre autre question qui était, rappelez-moi, le nombre de jeunes qui sont pas retenus. Écoutez, on a une centaine de jeunes aujourd'hui qui sont au lycée Nouvelle Chance. On renouvelle chaque année une cinquantaine. Donc il y a 50 postes disponibles chaque année. Et il y a à peu près 20 à 25 jeunes qu'on ne retient pas. Hein, sur 50 qu'on prend. Voilà. Et ces 20 à 25 jeunes qu'on ne retient pas, ce sont des jeunes dont je vous ai dit à l'instant qu'ils nous paraissaient trop fragiles pour engager... 2 ans dans ce dispositif. Je tiens à le préciser, c'est un dispositif hyper exigeant parce que 3 jours de cours, de 8h du matin à 6h le soir, chaque semaine, 2 jours en entreprise. Et je vous dis, on a une dizaine de jeunes mères de famille avec ce que ça comporte lorsqu'elles rentrent le soir à la maison, où les tâches ne sont pas nécessairement partagées parce que souvent ce sont des jeunes femmes isolées, parents isolés. Donc ce sont quand même des contraintes, des exigences personnelles, familiales, qui font que de tenir 2 ans dans cette dynamique-là, c'est souvent très difficile. Et que nous avons nous menons un combat de tous les jours contre l'absentéisme, par exemple.
Carole Desbrosses, MGI, Académie de Dijon. 3 toutes petites questions. La première... Non, mais très, très petite. La première, vous avez parlé... Vous avez tourné à vide la première année en insistant sur les 14 ou 18 journées de formation nécessaires. Et vous avez à un moment évoqué des cellules d'écoute pour recueillir les difficultés des équipes. J'aurais voulu savoir juste un petit peu de quoi il s'agissait. Quel type de cellule d'écoute animée par qui, par quel acteur? Ensuite, les postes mis à disposition par le rectorat, les 6 postes, est-ce que ce sont des postes à profil? Et puis dernière question sur le statut des jeunes. Parce que donc, j'ai compris qu'ils étaient stagiaires. Rémunérés, c'était important compte tenu de leur profil, compte tenu de leur sortie du système scolaire pendant un bon moment. Quel statut dans l'établissement? Est-ce qu'ils sont élèves? Est-ce qu'ils sont stagiaires? Est-ce que c'est un mixte? Voilà.
Première question, les cellules d'écoute, le travail qu'on a fait à vide. J'avais demandé à une société, ressources humaines, avec lesquelles j'avais travaillé lorsque j'étais CFC, avec qui j'avais eu de très bons résultats avec des équipes pédagogiques et avec des jeunes. Donc j'avais demandé à cette structure spécialisée en ressources humaines de travailler pendant 1 an avec nous, à raison d'une journée tous les 15 jours. Donc des vrais professionnels de la ressource humaine, qui a dû adapter en permanence, parce que c'était la première fois qu'ils travaillaient vraiment de manière intensive avec des enseignants, avec des spécificités particulières, des peurs particulières, des représentations particulières. Et j'avoue que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup facilité les choses. Deuxième chose, les postes sont pas nécessaires, c'est pas des postes à profil, ce sont des postes lambda. Ils deviennent postes à profil à la faveur de la réalité du terrain et du travail avec les jeunes. Concernant le statut des jeunes, c'est des stagiaires de la formation professionnelle puisqu'ils sont rémunérés par la région. Ça, c'était la grande angoisse des enseignants, des équipes administratives au départ, concernant la cohabitation, le mixage des publics. Or, en fait, ça n'a jamais posé le moindre problème par rapport aux jeunes lycéens, formation initiale non rémunérée, par rapport au fait d'avoir des copains ou des copines qui étaient rémunérés. Et quand on a interrogé, puisqu'on a interrogé, on a fait des sondages auprès des jeunes, ils ont considéré que c'était tout à fait normal que des jeunes adultes qui reprenaient l'école puissent être rémunérés parce que ils avaient 4-5 ans d'âge différents par rapport à eux, que certains étaient en charge de famille, etc. Donc il y a dans le lycée Magenta des statuts mixtes. Il y a le statut élève, il y a le statut stagiaire de la formation professionnelle. Ce qui correspond, si vous voulez, quelque part, à ce que sont devenus la plupart des lycées professionnels aujourd'hui, des lycées des métiers, où les statuts sont mixtes de plus en plus. Et je dirais que ça, c'est une belle œuvre. C'est une belle œuvre.